On est souvent, la plupart des ETI, elles sont un peu par hasard dans un territoire. C'est très, très, très surprenant, mais la plupart des... Je prends le cas de mon entreprise, elle est dans le Loiret, parce que le fondateur était originaire de Seine-et-Marne, et le Loiret était la première, l'endroit où il s'est implanté, c'était le premier endroit où il y avait une zone industrielle et où on pouvait bénéficier d'une aide pour décentraliser les entreprises, c'était les années 70, et donc il s'est retrouvé à Ferrières-en-Gâtinais. Ferrières-en-Gâtinais, c'est au milieu de nulle part, industriellement parlant. Et il y a beaucoup d'entreprises qui sont comme ça, le fruit du hasard, leur positionnement est le fruit un petit peu du hasard. Celles qui ont pu faire des choix, elles essayent d'aller dans des écosystèmes favorables, des endroits où elles vont trouver la capacité de recruter, la capacité de former, la capacité de travailler en réseau. Mais assez souvent, on se rend compte que les ETI sont un petit peu par hasard au milieu d'un territoire pour des raisons très curieuses, historiques. Je connais une belle entreprise qui fait des machines pour visser les bouchons, qui est un vrai métier, il y a de l'expertise, il y a des milliers d'années d'ingénieurs pour visser des bouchons sur des bouteilles, personne ne s'en rend compte, c'est l'entreprise Zalkin. Mais cette entreprise, elle est un endroit un peu perdu en Normandie, parce que le fondateur était un fanat de pêche à la ligne, et il allait pêcher dans ce coin-là, il avait une maison secondaire. Donc il n'y a pas vraiment de règles, en fait, la plupart des entreprises, elles sont implantées dans un territoire parce que le fondateur est originaire de ce territoire, il est là, donc il est patriote, il est lié, il a les pieds dans ce territoire, et il s'y est implanté, il a développé son activité.
Globalement, vous avez aussi des zones qui sont liées... Ça dépend de l'ETI. Généralement, ce modèle vaut pour l'ETI qui est sur un marché de niche et totalement indépendante de donneurs d'ordre plus grands qu'elle. Quand vous avez des donneurs d'ordre plus grands, généralement, après, vous avez une structuration des ETI à peu près sur des spécialités de filières. On parlait tout à l'heure de la vallée de l'Arve, l'aéronautique. Hein, vous allez à Toulouse, à Bordeaux, etc. Vous avez de nombreuses ETI qui sont toutes drainées par la filière... Airbus, la construction aéronautique. Là, on va de même pour tout ce qui est automobile. Quand vous voyez une entreprise qui s'appelle comme, enfin, beaucoup d'entreprises, Lizzy, qui sont des entreprises d'intermédiaires autour de tout ce qui est fixation, attache, boulon, etc. Pour l'industrie automobile, ben, on était près de Sochaux. Donc, il y a deux typologies. Soit vous avez des entreprises qui sont sur des niches et qui c'est lié à la création de l'entreprise historique de plusieurs générations et cet ancrage il ne bouge pas. Et le deuxième élément, c'est pour le plus récent, il y a quand même une maximisation ou un regard sur l'espace en fonction du donneur d'ordre. Donc on va se rapprocher du donneur d'ordre pour maximiser les coûts notamment de logistique, etc. Et dernièrement, naturellement, les implantations se font maintenant en fonction des infrastructures, que ce soit des infrastructures ferroviaires, fluviales. L'industrie est intimement liée à la question de la logistique, des logisticiens, de tout ce qui est infrastructure. Donc on va regarder, le raccordement à la fibre aujourd'hui est aussi un véritable enjeu. Si vous voulez, il faut voir les choses de façon... Il y a bien une approche à avoir. L'industrie mérite une approche systémique. Pouvoir public, centraux, collectivités territoriales et les industriels eux-mêmes. C'est ce que fait d'ailleurs l'Allemagne. Et je parle même en plus avec... C'est ça, hein, la grande différence entre la France et l'Allemagne tient à la non-approche écosystémique en France. C'est-à-dire que les Allemands, derrière, vous avez des centres de formation, vous avez des universités qui sont branchées, vous avez le réseau de sous-traitance, de PME, etc. Et ça crée des mini-clusters industriels un peu partout et répartis de façon assez uniforme sur le territoire, ce qui n'est pas le cas en France. Parce que des pans entiers de notre industrie sont partis aussi. Voilà. Le problème, c'est qu'il faut, il faut se mettre aussi à la place des politiques. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une politique économique à partir de cas particuliers. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut.
Je vous dis juste qu'on est réceptif et qu'on voit arriver des choses comme ça.
Alors je vais vous expliquer. En fait, nous, on a inventé des systèmes. Ça aussi, c'est un élément. Si on regarde la question de la transmission d'entreprise en France par rapport à l'étranger. En France, elle est plus complexe parce qu'on a mis en place des dispositifs comme les pactes du travail qui fonctionnaient au début des années 2000 dans un mouvement où vous aviez peu de heurts sur la structure capitalistique des entreprises. Vous n'avez pas une mondialisation aussi avérée, etc. Et donc des mouvements de capitaux beaucoup moins. Donc, on a eu tendance à mettre en place des dispositifs qui rigidifient les actionnariats. Et quand ça rigidifie les actionnariats, bah, tout ce qui est aléa conjoncturel ou aléa capitalistique, bah, vous mettez en risque votre entreprise. La plupart des pays étrangers, au tournant des années 90, ont mis en place des politiques de soutien à la reprise, à la transmission de cession des entreprises. Ils ont considéré que des entreprises industrielles ou de services dans les territoires étaient des actifs stratégiques pour le pays. Et que donc, il fallait faire en sorte que la pérennité soit garantie avec un certain nombre d'éléments. Généralement, c'est de la détention de titres, de la détention... détention longue et de la détention individuelle. Enfin, je ne vais pas rentrer dans la mécanique du pacte. Seulement, il faut juste avoir une approche. Ce qu'on veut, est-ce qu'on préfère mettre en place. Enfin, est-ce que l'objectif de la politique économique, c'est la pérennité de nos entreprises, leur montée en taille ou en gamme, ou alors c'est de la rentrée fiscale à court terme. C'est ça l'enjeu. En fait, le débat là, c'est est-ce qu'on souhaite voir se développer et durer, parce que le développement est consubstantiel de la durée, des entreprises dans notre territoire. Et donc, il faut simplifier un certain nombre de choses.
Ce que je voulais dire, c'est que je vous rejoignais là-dessus. Je pense que le pacte du trade a été une bonne idée, mais il n'est plus adapté aux mutations. Ouais. Voilà, donc il y a un gros travail à faire là-dessus. Simplement, là où j'étais surprise, c'est sur la transmission d'entreprise, où on ne parlait que de fiscalité, alors que je pense que c'est aussi un sujet humain et familial.
L'économie, c'est 90% d'humain. La fiscalité.
Je pense qu'il y a peut-être un problème de culture française dans la transmission, et c'est là où j'aurais voulu vous entendre. Parce que quand les transmissions se passent mal, c'est pas uniquement un problème de fiscalité. C'est aussi un problème parfois psychologique.
Oui, tout à fait.
Parce qu'il y a des chefs d'entreprise qui ne savent pas passer la main.
Ouais, mais juste pour vous donner un élément de comparaison, vous êtes en train de me parler de l'Allemagne aujourd'hui, en fait. Là. C'est pour ça que je disais qu'il y avait. Non, mais franchement, on regarde le Mittelstand allemand. Une des grosses difficultés aujourd'hui en Allemagne de ces entreprises, c'est de pouvoir trouver des repreneurs, de passer la main. Et c'est le cas aussi. C'est le cas aussi chez nous. Mais nous, on en a rajouté une couche, qui est la couche. La couche fiscale. Il y a un travail de pédagogie à faire vis-à-vis des services de l'État, mais vis-à-vis, je ne dis pas que tout incombe au pouvoir public. Les chefs d'entreprise, eux aussi, doivent préparer leur transmission, se poser des questions, trouver des repreneurs, etc. C'est pas simplement, la balle n'est pas seulement, c'est pas l'affaire seule des pouvoirs publics. Il doit y avoir un caractère incitatif, pas punitif, et éviter les surcharges de complexité. C'est simplement ça le sens de mon propos.
En toute façon, on pourra revenir aussi après sur ces questions, après la présentation de Bruno Grandjean tout à l'heure. Donc, soyez pas trop frustrés si vous ne pouvez pas poser votre question maintenant. On va peut-être grouper quelques questions et je vous demande de les faire assez brèves, quoi, de toute façon.
Oui, donc question très brève, c'était juste une précision dans votre présentation tout à l'heure. Vous avez évoqué à un moment. Vous avez dit que les ETI étaient relativement vertueuses sur la distribution des dividendes. Vous pouvez quantifier un peu ce que ça veut dire ?
Bon, on garde la question, on en prend deux autres.
Moi, je travaille dans un centre de recherche technologique au commissariat à l'énergie atomique. On rêve de travailler avec les ETI françaises. Et c'est la croix et la bannière que vous trouvez au niveau national. Et donc, vous avez parlé précédemment des universités, entre autres, et de tous les jeunes qui se forment. Et ces jeunes-là, ils cherchent à travailler dans les ETI. Donc ma question est la suivante. Que faites-vous, vous, de votre côté, pour vous faire connaître et pour qu'on vous trouve facilement au niveau des étudiants et de l'apprentissage?
Excellente question. On en prend une troisième et puis vous répondez.
Il y en a encore deux. Il y a encore deux.
Oui, mais on fera une deuxième salve après.
Oui, non, moi c'était simplement une réaction parce que j'ai travaillé dans beaucoup d'ETI en tant qu'ingénieur, Magali Castex, Grand Paris Aménagement. Et donc, j'ai pu percevoir tout ce que vous décriviez en termes d'implication locale, de dynamisme obligé avec une implication hyper forte des managers et des dirigeants parce que c'est une question de survie. Et en fait, aujourd'hui, quand je vois la presse, puis même les réactions qu'on a là, je me dis finalement la médiatisation des scandales qu'on a eu sur les très grosses entreprises avec la délocalisation, le fait d'aller mettre ses bénéfices dans plein de sociétés, des paradis fiscaux, le fait de faire du dumping social en délocalisant dans plein d'endroits, finalement je me dis ça a contaminé en fait toute la sphère économique française, et avec des acharnements parfois. Donc Sarah décrivait quelque chose, mais aussi j'ai des exemples d'acharnement, des impôts sur des objets qui n'avaient pas lieu, avec derrière la rhétorique de dire mais de toute façon vous êtes des salauds parce que vous allez mettre vos capitaux, je ne sais pas où, en Tahiti, je ne sais pas, au Luxembourg, et donc c'est ce très très mauvais des a priori qui est un problème.
Ok, merci. Donc on va commencer. Il y a ces trois questions.
Non, Pierre. Il y a vraiment des.
Il y a deux questions.
Non, mais je pensais faire un deuxième round après.
Oui, parce qu'après,
ils ont plus en mémoire. On va répondre à ça, puis on fait un dernier round après, puis vous aurez encore.
Je tente une réponse synthétique. Je crois que sur les dividendes. De toute façon, les ETI sont généralement très vertueuses parce qu'on ne peut pas sortir des dividendes importants d'une activité si on vise le long terme. Donc les ETI réinvestissent énormément, elles versent relativement peu de dividendes. Je vais reparler de moi, je me présenterai un peu plus tout à l'heure, mais l'entreprise que je dirige n'a pas versé de dividendes depuis 5 ans. Car nous sommes dans une période de fort investissement, dans une période d'incertitude, et les actionnaires l'acceptent, car c'est du capitalisme familial et on veut créer de la valeur. Ce qui compte, c'est de pouvoir avoir une entreprise prospère dans 20 ans. Ce n'est pas de sortir des dividendes immédiats. Sur la partie recherche, c'est un problème culturel français. C'est deux mondes cloisonnés, totalement cloisonnés. C'est en train de changer. Je vais encore reprendre mon exemple. Je viens de signer le premier contrat CIFRE et un contrat de collaboration avec un laboratoire du CNRS à l'INSA de Lyon. On est en train de créer des passerelles, mais c'est un problème culturel. Et j'ai une entreprise en Allemagne, toute petite entreprise, 40 personnes, et bien le directeur technique, il passe un coup de fil à un prof de l'université d'à côté. Dès qu'il a un problème un petit peu pointu, il se voit et on travaille ensemble. Une entreprise de 40 personnes avec une université à Stuttgart. Ça n'existe pas en France, mais je crois que ce problème culturel, il doit être traité des deux côtés. Des deux côtés. C'est évidemment au patron d'ETI, c'est évidemment aux responsables techniques de se rapprocher des laboratoires. C'est aussi du côté des laboratoires de comprendre qu'on est dans un besoin d'efficacité, de réponse rapide, de pragmatisme sur des sujets qui parfois en France sont considérés comme n'étant pas des sujets dignes d'un laboratoire de recherche. Moi, je sais que les problèmes qu'on pose, c'est des problèmes de métallurgie, c'est des problèmes basiques de mécanique pour lesquels on a besoin de réponses rapides et il y a des liens qui se font. Donc cette recherche appliquée, ce continuum entre la recherche fondamentale, la recherche appliquée, le développement, l'industrialisation, la commercialisation, ça existe en Allemagne. On parle toujours de l'Allemagne parce que c'est le modèle industriel qui fonctionne le mieux. Ce sont les meilleurs industriels mondiaux, il faut le dire. Mais c'est un vrai sujet, un sujet très important de compétitivité. Ce qui montre bien que ce n'est pas qu'un problème de fiscalité.
Ça suppose aussi une évolution du système universitaire, etc. Enfin, à Stuttgart, il y a des labos de productique qui n'existent pas en France. Quoi.
Il y a ça, mais il y a aussi des passerelles. C'est-à-dire qu'on peut être le matin dans l'entreprise et l'après-midi, on va travailler dans de la recherche appliquée. On comprend, par exemple, beaucoup mieux la problématique d'industrialisation qui, en France, est méprisée. On pense qu'une fois que le brevet est déposé, tout est terminé. Or, tout commence à ce moment-là. Donc, il y a beaucoup de choses à faire bouger.
Ok. Oui, on reprend peut-être une dernière.
Ça, ma question est plutôt d'ordre philosophique. En fait, le modèle social français est un modèle que tout le monde envie. Mais en même temps, est-ce que ce n'est pas le principal problème du modèle économique? C'est-à-dire que tout à l'heure, on voyait que les prélèvements sociaux sont tellement élevés que finalement, et les prélèvements sociaux vont en réalité au modèle social, quand on regarde bien. Et donc, est-ce que comment on va faire pour changer la donne si les prélèvements sont toujours si élevés et que le modèle social ne peut pas bouger? Parce que quand on regarde le problème de la France, ce que vous dites, c'est aussi le problème de la balance commerciale. On regarde le problème de la France, elle a une balance commerciale qui se dégrade d'année en année. L'Allemagne, c'est l'inverse. Donc à un moment donné, ça veut dire que la question, il faut vraiment se la poser et qu'il faut sans doute trouver une solution à ce problème-là.
Ben c'est là, ça c'est le vous traitez le sujet le sujet cœur, c'est-à-dire de faire des choix. C'est finalement ce qu'on demande aux politiques, mais c'est de faire des choix. Les pays, la plupart des pays qui ont aujourd'hui une industrie dynamique ont fait des choix de bascule. Encore une fois, c'est une question de on peut vivre avec un modèle social qui est
la Scandinavie,
le modèle scandinave. Bon, on le ressort un peu comme une tarte à la crème assez régulièrement, mais c'est pas à moi de me prononcer. C'est pas à moi de me prononcer sur des équilibres qui, d'ailleurs, je trouve assez dommage que les dirigeants d'entreprise soient ceux qui demandent à lever d'impôts ou à faire un certain nombre de réformes, etc. Chacun doit être dans son rôle. Non, mais vraiment, chacun doit être vraiment dans son rôle. Mon rôle aujourd'hui de représentant un chef d'entreprise, c'est de dire qu'il y a un certain nombre d'anomalies de notre système productif, de l'appareil productif, et qu'il faut les traiter. C'est pas à moi de donner la méthode de bascule ou la méthode de réforme, et je serais totalement illégitime à donner cette méthode. Je dis simplement, quand on screen, qu'on fait du benchmark et qu'on regarde les choses, les pays qui sont aujourd'hui dynamiques, qui ont su à la fois préserver un modèle social protecteur, pas excessivement différent, en décalage par rapport au nôtre, ont fait des choix sur la structure de leur fiscalité, sur la structure d'implication de la solidarité nationale avec les cotisations, etc. C'est la seule chose. Effectivement, il y a des réformes de fond, mais déjà, il faudrait, pour se poser ces questions, il faudrait que le débat soit clairement posé. Je n'ai pas entendu dans les programmes des candidats, de quelque bord qu'ils soient, la question industrielle posée, ou la question industrielle posée de façon pédagogique, didactique, et d'ailleurs les territoires sont absents de cette campagne présidentielle. Il faut remettre les choses dans le bon ordre en termes de pédagogie. On peut expliquer beaucoup de choses.
Dernière question.
Oui, dernière.
Oui. Philippe Ballat, Clermont-Ferrand, mais dans le territoire des services industriels, et non plus une industrie seule. C'est plus un étonnement. Vous avez 40% de vos entreprises en ETI qui sont industrielles et 60% qui sont ailleurs. Oui. Et vous avez parlé des 40%. Où sont les services? Où est l'avenir des services? Et que défendez-vous? En fait, c'est assez étonnant parce qu'il y a eu un plaidoyer très fort pour l'industriel, avec un renvoi à des questions de fiscalité et d'organisation qui ne sont pas de même nature sur les autres secteurs de l'économie.
La distinction industrie-service, elle est dépassée. Elle est clairement dépassée. D'ailleurs, on essaye de parler de distinction éventuellement, même si elle est aussi sujette à questionnement, elle est un peu limitée, mais entre secteur abrité et secteur exposé. Vous avez un exemple pour illustrer quand même ça, c'est Michelin, hein, qui est vraiment un industriel, mais qui est finalement, depuis d'ailleurs ses origines, ce qui fait son originalité, une société de service, hein, à travers le guide Michelin, les plans, etc. Et Jean-Dominique Sénard explique vraiment ce qui est en train de se passer. Par exemple, avec des objets connectés, aujourd'hui, il loue des pneus, c'est du service, et on paye à l'usage, parce qu'on sait combien de kilomètres a fait un pneu sur des gros engins de chantier. Donc on devient une société de location, Michelin devient une société de location. Donc cette frontière entre service et industrie, elle est en train de progressivement fondre, en train de s'évanouir. Ceci étant, il ne faut pas non plus aller trop loin. L'industrie, ça reste quand même du capital fixé, des usines, des machines, des savoir-faire. Ça sont des choses importantes et on ne peut pas tout basculer du côté des services. Mais enfin, je pense que la distinction exposée-abritée est beaucoup plus intéressante. Elle correspond vraiment à ce qu'on ressent aujourd'hui dans nos entreprises.